Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue pour retrouver les meilleurs moments d'accent cet été.
Zeynep, was machst du da? Was machst du da? Was geht? Was steht auf?
Le meurtre avait alors choqué toute l'Allemagne, celui d'Atoum Sürücü en 2005, tué par ses frères au nom de l'honneur parce qu'elle avait quitté son mari. Depuis à Berlin, des jeunes garçons issus de l'immigration, on les entendait d'ailleurs, se battent contre cette conception de l'honneur et pour l'égalité des droits hommes-femmes. Leur groupe s'est baptisé Heroes et c'est le reportage de Déborah Berlioz.
Dans les locaux du projet Heroes à Berlin, Devrim et Correr répètent un jeu de rôle. Ils mettent en scène deux jeunes garçons. Le père de l'un d'eux lui a demandé de ramener de force sa sœur à la maison.
Arrête de te plaindre, ton père a raison. Mais elle est juste assise, elle ne fait rien de mal.
Quoi ?
Tu as vu comment elle est assise ? Tu as vu ses amis ? Avec leurs mini-jupes et leurs leggings. Ton père a raison, mon pote. Tu sais ce que les autres pensent de toi ?
Ici, la jeune fille est accusée de déshonorer sa famille. Et cette scène n'a rien d'une fiction, selon Correr. Ce jeune d'origine turque a déjà assisté à ce genre de conversation. C'est pour changer cela qu'il a décidé de rejoindre Heroes. Ce projet, fondé en 2007, se bat pour l'égalité entre les sexes et contre l'oppression au nom de l'honneur. Si cette conception traditionnelle de l'honneur évoque souvent l'islam, les discriminations envers les filles n'ont rien de typiquement musulman, selon Eldem. Cette jeune Allemande d'origine turque s'occupe de la formation des jeunes chez Heroes.
Ce sont des mécanismes qui existaient avant l'islam et ce sont des mécanismes qui existent aussi dans d'autres sociétés patriarcales et dans d'autres pays, aussi dans des pays européens de culture catholique. Mais dans les communautés musulmanes, c'est plus dur de parler d'égalité car elles ont certains préjugés en tête qui sont légitimés par la religion.
Le projet Heroes forme des jeunes ambassadeurs, des héros, capables de s'engager pour l'égalité au quotidien. Tous sont des garçons issus de l'immigration, beaucoup sont musulmans, mais pas tous. Ces ambassadeurs sont uniquement des jeunes hommes. Les seules femmes dans le projet sont en charge de leur formation ou de la direction. Selon Eldem, les garçons sont les mieux placés pour changer les choses, car le poids de la tradition n'affecte pas que les filles.
Ces mécanismes les forcent à adopter un certain rôle masculin qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'assumer. Ils n'ont pas forcément envie de se montrer durs envers leurs sœurs. Mais ils sont forcés par la société. Il y a donc deux perdants dans ces inégalités, pas uniquement les femmes, les hommes aussi y perdent.
Avant de devenir des héros, les jeunes garçons doivent suivre une formation pendant un an minimum. Correr et Devrim ont commencé à 14 ans sur le conseil d'un ami. Pendant la première année, les jeunes se retrouvent une fois par semaine avec leur chef de groupe responsable de leur formation. L'important est d'amener les garçons à réfléchir par eux-mêmes. Correr apprécie d'avoir trouvé un espace où l'on peut parler sans tabou.
On se pose la question de ce qu'est l'honneur. Et pour l'expliquer, il faut aborder d'autres concepts, comme la culture. On parle aussi de sujets du quotidien, comme la sexualité. Je ne vois pas un seul sujet qu'on n'a pas abordé. C'est ce qui est bien ici.
Souvent, des intervenants sont invités aux réunions. Aujourd'hui, par exemple, un militant homosexuel va venir discuter de l'homophobie avec les jeunes. Cette formation a apporté beaucoup à Devrim.
Avant, j'avais peu confiance en moi et je marchais toujours les épaules baissées. Heroes aide à trouver sa propre identité et à défendre ses opinions.
Une fois la formation achevée, les garçons deviennent des héros officiels. À partir de là, ils peuvent animer des ateliers dans des écoles ou des centres de jeunes. À 18 ans, Devrim et Correr en ont déjà plusieurs à leur actif. Ils commencent par demander aux jeunes leur définition de l'honneur, puis passent au jeu de rôle. Un garçon est toujours choisi pour jouer la fille afin qu'il comprenne la perspective de la victime.
On leur demande après s'ils se sentaient bien dans ce rôle, s'ils connaissaient ce genre de situation, s'ils avaient apprécié la manière dont ils étaient traités. En général, la réponse est non, et cela les pousse à réfléchir.
Mais être un héros, c'est surtout un travail quotidien pour Correr.
J'ai 18 ans, mais j'ai déjà eu des amis qui voulaient interdire à leur sœur d'avoir un petit ami. Donc ça a commencé là pour moi. Je leur ai demandé, mais pourquoi ? Tu avais une petite amie, toi ? Pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir un copain ?
36 héros ont déjà été formés et 6 sont actuellement en apprentissage. Et ils sont très demandés. Heroes anime environ 2 ateliers par semaine dans des écoles. Et l'organisation propose également des formations pour des enseignants, policiers ou travailleurs sociaux afin de les sensibiliser aux questions interculturelles. Le succès du projet est tel qu'il a fait des petits. Heroes existe désormais dans 8 villes allemandes.
Les autorités espagnoles se félicitent d'avoir réalisé une véritable prouesse fiscale, celle d'avoir récupéré 15 milliards d'euros, 27% de plus que l'an passé. Un exploit dans un pays où 25% de l'économie serait au noir. François Musso nous appelle de Madrid.
La fraude fiscale serait en pleine chute. Les fraudeurs seraient de mieux en mieux localisés, connus, pressés. Ils auraient à craindre, en un mot, s'ils n'ont pas déjà été pris en flagrant délit. 15,6 milliards d'euros ayant émergé l'an dernier, c'est 27% de plus que l'année antérieure. Dit de cette façon, il y a en effet de quoi être fier, très fier pour l'Espagne, où comme en Grèce, l'évasion fiscale est considérée comme un sport national. Ce sport aurait-il ses jours comptés? C'est très loin d'être sûr. Ce qui est indéniable, c'est que les inspecteurs des impôts sont de plus en plus actifs et que oui, ils ont accentué leurs ailes, ce qui explique en partie ces résultats. Le grand déclic, c'est que depuis un peu plus d'un an, ces mêmes inspecteurs bénéficient d'un intéressement financier plus grand en cas de succès. Mais pour le reste, ces chiffres spectaculaires sont à nuancer. D'après des titres économiques comme Cinco Días ou El Economista, ces statistiques ne précisent pas ce que les caisses de l'État vont réellement encaisser et, disent-ils, ce devrait être une somme bien inférieure. Surtout, il y aurait un maquillage financier qui, en substance, aurait consisté à minimiser les réussites du gouvernement antérieur et à enfler celles de celui-ci. En réalité, disent plusieurs experts, environ 80% de la fraude fiscale ne se découvre pas et c'est le même pourcentage depuis une bonne décennie. Un poids très lourd dans un pays où environ le quart de l'économie est souterrain.
Allez, on change totalement d'ambiance pour se promener dans les couloirs feutrés d'un palais le plus grand du vieux continent. Palais des papes, des rois, puis des présidents italiens. Le Quirinal ouvre désormais ses portes au public. La résidence du président de la République a failli être au cœur de Rome, le palais de Napoléon Ier. Un palais qui révèle aujourd'hui ses secrets sur l'histoire européenne. Visite guidée avec Mathilde Villain.
Quelques jours après son élection, il y a un peu plus d'un an, Sergio Mattarella, président de la République, décidait d'ouvrir les portes de son palais présidentiel au grand public.
Je suis heureux de pouvoir annoncer que le palais du Quirinal sera ouvert tous les jours aux visites. Une ouverture qui le rend, comme c'est sa vocation, le palais de tous les Italiens.
Occasion unique pour tous les Italiens de découvrir en vrai l'intérieur d'un palais qu'ils ne voyaient d'ordinaire qu'à la télévision et au moment des crises gouvernementales. Pour la visite, suivez le guide.
Et qui le président de la République.
Voilà le bureau du président de la République. C'est ici qu'il reçoit les chefs d'État du monde entier. C'est ici qu'il reçoit les chefs des différents partis en cas de crise gouvernementale. Ces fauteuils pourraient raconter toute l'histoire de la République italienne.
Les murs de ce palais majestueux de 110 500 mètres carrés racontent l'histoire de l'Italie unifiée, l'histoire de l'Église catholique aussi. Le palais du Quirinal, construit en 1583, a été la résidence de 30 papes, 4 rois et 12 présidents. Le salon des cuirassiers fut conçu au départ comme une salle du trône pour les souverains pontifes. Il est aujourd'hui salle de réception pour le président de la République. Son pavement est fait de marbre prélevé au XVIIe siècle sur des constructions romaines. Des strates d'histoire s'imbriquent donc dans les moindres détails du palais et même un peu d'histoire de France.
Ici, ce devait être le bureau de l'empereur Napoléon. Cette salle est décorée avec les images des dieux de l'Olympe. L'architecte Stern a aussi demandé au peintre bolognais Palagi de dessiner Jules César, évoquant ses victoires. Et regardez, c'est amusant. Le visage de César ressemble beaucoup à celui de Napoléon Bonaparte.
Napoléon voulait en effet faire de Rome la seconde ville de son empire. Après avoir exproprié le pape Pie VII de son palais, annexé les états pontificaux, il nomma son fils roi de Rome et Napoléon entendait bien s'installer au palais du Quirinal. C'est ce que raconte Louis Godard, conseiller pour la culture et le patrimoine artistique de la présidence de la République italienne.
Je trouve extrêmement intéressant que Napoléon ait décidé de venir à Rome et à partir de Rome de régner sur l'empire qu'il avait reconstitué et qui nous permet de comprendre aussi ce qu'est l'idéologie napoléonienne. Je crois que Napoléon, au-delà des guerres, rêvait de créer en Europe un très vaste espace de paix, évidemment sous son égide, mais je crois que c'est ce que l'on peut comprendre à travers les témoignages que les Français ont laissés ici au palais du Quirinal, en particulier la frise de Thorvaldsen avec la conquête de Babylone par Alexandre le Grand, qui devait anticiper l'entrée triomphale de Napoléon à Rome, placée sous le signe de la paix et de la joie, parce que le roi de Babylone accueille avec enthousiasme celui qui va occuper sa cité. Ben, c'est ce que Napoléon voulait. Il voulait une entrée triomphale à Rome qui soit placée sous le signe d'un consensus avec les populations locales.
Une entrée triomphale qui n'eut jamais lieu. Mais les traces de Napoléon n'ont pas été effacées pour autant, ni celles des papes. Le palais du Quirinal est aujourd'hui un écrin unique de l'histoire européenne, nous explique Louis Godard, historien belge naturalisé italien, qui officie depuis 2002 au palais du Quirinal.
Je crois que c'est le seul palais au monde qui, depuis près d'un demi-millénaire, a été le siège de l'autorité. À travers tous les régimes, hein, le palais des papes de 1583 à 1870, avec une petite parenthèse 1812-1814 qui est marquée par la forte présence française et napoléonienne. De 1870 à 1946, c'est le palais des rois. Et puis maintenant, c'est le siège de la plus haute magistrature de l'État républicain. Donc je crois que cette continuité dans l'exercice du pouvoir associée à une structure architecturale, on ne l'a nulle part.
Un palais du Quirinal et ses jardins luxuriants, désormais ouverts au public, un monument à visiter, comme on lirait un livre d'histoire de l'Europe.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors Eve, les jeunes européens seraient-ils en train de s'assagir ? Une récente enquête de l'Organisation mondiale de la santé a dévoilé en tout cas qu'ils commencent à boire et à fumer un peu plus tard qu'avant. Alors faut-il y voir une tendance durable ? C'est ce que nous allons voir, Eve.
La grande enquête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, porte sur les comportements des jeunes de 11 à 15 ans et leurs implications sur la santé dans 42 pays du continent. Et la première chose qui en ressort en effet, c'est que la part des jeunes européens de moins de 14 ans qui a déjà fumé une première cigarette a diminué, en tout cas ces 4 dernières années. Ils ne sont donc plus que 17% par exemple à fumer avant de fêter leurs 14 ans, contre 24 il y a 4 ans. La baisse est encore plus significative chez les jeunes filles que chez les garçons.
La part des ados ivres a aussi baissé sur la même période.
Ils sont à présent environ 10% à déclarer avoir été ivres pour la première fois avant l'âge de 14 ans pour les garçons et 7% pour les filles. C'est là aussi une baisse assez significative. Cette différence d'attitude vis-à-vis de l'alcool entre filles et garçons reste pertinente dans la plupart des pays européens, même si deux pays se distinguent parmi les 42. Le Royaume-Uni, où à 15 ans les jeunes filles boivent plus que leurs congénères mâles, et l'Écosse, où le phénomène s'observe aussi, mais encore plus tôt cette fois-ci autour de 13 ans.
Quelles sont les raisons avancées pour expliquer une telle évolution ?
La première explication avancée serait l'effet global des campagnes publiques menées ces dernières années pour prévenir les comportements à risque chez les ados, comme le binge drinking par exemple. Vous savez, c'est cette manière de boire la plus grande quantité d'alcool le plus vite possible, ou encore l'interdiction de fumer de plus en plus dans les lieux publics.
Alors Eve, l'enquête de l'OMS permet également d'établir que les comportements à risque chez les ados ne dépendent pas des facteurs économiques et sociaux.
Contrairement à certaines idées reçues, en effet, le fait de fumer ou de boire jeune, plus jeune, n'est pas directement influencé par l'origine sociale des ados interrogés, et contrairement à d'autres habitudes, par exemple, comme l'alimentation saine. Même si globalement, les filles et les enfants issus de familles pauvres rapportent toujours une moins bonne santé mentale et physique que les garçons et les enfants élevés dans les familles aisées.
Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ces résultats, car si le tabagisme diminue, la consommation de cannabis, elle, stagne.
L'étude met d'ailleurs en évidence les grandes disparités entre les pays. En France, 29% des garçons et 26% des filles ont déjà fumé au moins une fois du cannabis dans leur vie, alors qu'en Suède, par exemple, seuls 7% des garçons et 5% des filles ont déjà essayé au même âge, à 14 ans. Les ados français restent d'ailleurs les plus gros consommateurs d'Europe, devant l'Estonie, l'Italie, la Suisse et la Pologne. Là encore, les garçons européens sont globalement plus consommateurs que les filles, sauf en Hongrie, où cette cette fois-ci, les filles ont davantage expérimenté cette drogue. Autre remarque, aux Pays-Bas, seul pays de l'étude où la possession de cannabis est légale, rappelons-le, les résultats se situent dans la moyenne européenne.
Merci Eve, et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Des parties de plus en plus loufoques, il en existe un peu partout en Europe. La Finlande, elle, peut s'enorgueillir de la naissance du Parti national du whisky. Si ce nom peut faire sourire, ses premiers membres, eux, se prennent très au sérieux. Pauline Curtet.
Il leur fallait 5000 signatures de Finlandais pour que leur association soit reconnue officiellement comme parti politique. Les quatre membres fondateurs du Parti du whisky n'ont eu besoin que de quelques semaines. Les nouveaux militants n'ont pas été trop difficiles à convaincre. Quelques verres de whisky ont apparemment suffi. Le but de cette nouvelle formation, vous l'aurez compris, c'est de promouvoir la dégustation de l'alcool fort. Mais aussi, et c'est là le plus important, de combattre les lois régulant la consommation d'alcool en Finlande, parmi les plus strictes au monde. Leurs détracteurs dénoncent régulièrement les horaires d'ouverture très stricts des magasins d'alcool, sous monopole de l'État, et des taxes trop élevées. D'ailleurs, malgré son nom insolite, le Parti national du whisky ne veut pas être pris pour une blague. Juhani Kahara, le président du parti, ne se cantonne pas dans ses interviews à critiquer les lois sur l'alcool. Il s'en prend aux partis politiques en général, qui n'arriveraient pas à trouver de bonnes solutions pour résoudre la crise en Finlande, sans oublier des attaques bien senties contre la bureaucratie et les normes excessives. Bref, un discours qui n'a rien à envier à certaines formations populistes. Reste à savoir s'il fonctionnera. Réponse en 2018, lors des élections municipales, où le parti du whisky veut présenter ses premiers candidats. Remember, love, create, play, dream, think,
read, talk, applause, surprise, do nothing. Visiter Istanbul, les yeux fermés, en se laissant guider par les sons d'une mégalopole très bruyante, c'est l'expérience que nous propose la dernière exposition du Centre de recherche sur les civilisations anatoliennes. Anne Andlauer nous y emmène.
Brouhaha urbain, sonnerie de téléphone, vrombissement d'un avion. Puis, plus rien. Silence absolu. C'est l'étonnante expérience proposée par l'exposition sonore interactive Gunlux Sessler, bruit quotidien. Aux manettes d'une cinquantaine d'interrupteurs, les visiteurs ont le contrôle des bruits de la ville, répartis en trois catégories, son de la maison, du travail et de la rue. Objectif, réapprendre à écouter les sons auxquels ils sont exposés tous les jours dans la mégapole d'Istanbul. Mais pour la première fois, ils en sont les chefs d'orchestre. Appuyant sur un bouton, puis un autre et encore un, chacun est libre de créer sa propre symphonie stambouliote. En voilà un qui s'imagine enfermé dans son bureau au septième étage d'un gratte-ciel, pianotant sur son clavier d'ordinateur, lorsque le klaxon d'une voiture le sort de sa rêverie. Une autre installation propose un nouveau voyage sonore dans les rues d'Istanbul, à travers une cartographie interactive. Les plus sportifs préfèrent l'ambiance folle d'un match de foot, les plus gourmands le crépitement du kebab sur le feu, quand les oreilles des plus joueurs se réjouissent d'une partie de backgammon. Pour errer du stade de foot à la mosquée bleue, il suffit aux visiteurs de bouger des blocs de bois sur le plan stambouliote. Écoutez, fermez les yeux et s'imaginez, une soirée dans un bar, une virée sur le Bosphore. Le choix des sons de l'exposition résulte d'un sondage en ligne. Les internautes ont désigné les bruits du trafic routier comme les plus communs d'Istanbul, quand ceux du tramway de Taksim, l'appel à la prière ou encore les vendeurs ambulants, ont été désignés comme les plus caractéristiques de la ville. Il est encore possible de contribuer au projet sur son site internet, où chacun peut partager ses enregistrements. À la sortie de l'exposition sur la grande artère Istiklal, brouhaha urbain, sonnerie de téléphone, vrombissement d'un avion. On aimerait tout arrêter, mais on ne peut plus.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation. Guillaume Munier, restez à l'écoute dans quelques secondes maintenant les infos. Ça va ?